La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonjour à tous.
Bonsoir.
Aujourd'hui, nous allons de nouveau plonger dans les raretés que nous avons découvertes en cherchant bien l'été dernier, le printemps dernier, car nous avions constaté qu'il nous manquait relativement peu de choses par rapport à la masse des enregistrements de jazz réalisés depuis les débuts d'enregistrement, c'est-à-dire 1917. Et nous en avons trouvé quand même des raretés qui sont fort intéressantes. Et en plus, vous en aurez d'autres plus récentes et d'autres plus anciennes, mais ça c'est pour les émissions futures. Pour l'instant, nous n'en sommes qu'à la 1078e. Et le premier morceau pour aujourd'hui va vous permettre d'entendre un formidable chanteur.
Oui, il s'agit de Big Joe Turner. Alors, c'est ce qu'on appelle un blues shouter. Shout, ça veut dire, en gros, c'est gueuler, quoi. Crier, gueuler. C'est un bluesman qui exprime toute sa douleur ou toute sa rage ou toute sa joie, mais c'est toujours fort.
Et ce Big Joe Turner, il méritait bien son surnom, il était d'aspect absolument colossal. Nous en gardons un souvenir ému de l'année 67, je me souviens encore de l'avoir vu arriver en coulisses. C'était impressionnant.
Oui, il prenait de la place.
Il prenait vraiment de la place et il était très gentil. Et un côté gros nounours là quand même, manifestement.
Alors il commence à Kansas City. Oh, il ne commence pas dans le haut des chanteurs. Il est barman chantant.
Et avant, il a été serveur en brasserie, tradition que nous-mêmes, nous portons en notre cœur, puisque la limonade, quand même, hein, ça compte par chez nous. Ben là-bas aussi, figurez-vous. Alors, il a fini par aller derrière le bar, et là, il a commencé à chanter.
Et figurez-vous qu'il va chanter accompagné par quelqu'un qui s'appelle Pete Johnson, qui va devenir très célèbre lui aussi, c'est amusant quand même. Ces deux types qui chantaient dans les bars, eh ben, ils sont devenus célèbres tous les deux.
L'enregistrement qui vient, c'est un petit peu des retrouvailles entre Pete Johnson et Joe Turner, parce qu'ils se sont retrouvés de temps en temps comme ça. Leurs débuts sont plus anciens, et d'ailleurs, leur premier disque, c'est en duo, piano-vocal. Là, il y a un petit orchestre, sur lequel on ne sait pas grand-chose d'ailleurs, parce que les ingénieurs du son ne se sont pas souciés de faire l'inventaire. Je pense qu'il y a Maxwell Davis au saxo-ténor, et nous allons immédiatement vous faire entendre un formidable blues qui s'appelle
Married Woman Blues, le blues de la femme mariée.
Vous savez que le blues de la femme mariée, c'est quand même un thème inépuisable.
Thank you.
Un sacré abattage, ce Big Joe Turner.
Ah oui, puis il avait le coffre qu'il fallait pour la boîte qu'il fallait.
Ah oui, il avait du coffre. Si vous tombez un jour sur un DVD qui s'appelle The Last of the Blue Devils, sautez dessus, vous pourrez non seulement l'entendre, mais aussi le voir. Et ça vaut vraiment le déplacement. D'ailleurs, il déplaçait beaucoup, en fait, hein, si on y réfléchit. Et le disque suivant nous met aux prises avec une chanteuse, donc, qui est totalement le contraire du précédent, hein, puisqu'elle a été plutôt mince, c'est une dame, et que sa voix n'a plus rien à voir.
Et oui, il s'agit de Billie Holiday.
Billie Holiday, qui est une icône du jazz, on ne dira jamais assez.
C'est une chanteuse qui a eu une vie très, très agitée, très compliquée, ce qui fait que les médias s'en sont beaucoup emparés. Sa vie permettait de raconter des tas de choses assez scandaleuses. Donc,
Puis en plus, c'était un personnage autodestructeur, ce qui fascine totalement la culture européenne, c'est bien connu. Voilà.
N'empêche qu'elle est bien, hein. c'est une sacrée bonne chanteuse,
et là c'est un de ses meilleurs disques enregistrés en public, car Billie Holiday à cette époque-là faisait partie de la troupe qui faisait le show Louis Armstrong, c'est-à-dire que Louis Armstrong avait un big band et une chanteuse qui se produisait un peu en intermède.
On appelait ça du nom tout à fait amusant de Canary. Oui, la chanteuse, c'était le canari. Pourquoi ? Parce que ça devait être quelqu'un, une jolie petite fille, un peu pépiante, et donc qui faisait joli dans le tableau, quoi.
Oui, et puis qui chantait des airs à la mode. Alors, quand le big band était sur scène, elle était modestement assise sur le côté. Tantôt, elle se levait, elle poussait une romance, et puis elle se rasseyait, on l'appelait le canari. Mais il y a eu quand même quelques canaris qui se sont envolés et qui sont devenus très connus. On peut penser à Peggy Lee, par exemple. Et même, tu sais que Sister Rosetta Tharpe, à une époque, fut le canari de l'orchestre Lucky Belinder. Mais enfin, elle n'est pas restée là non plus.
Alors ça se passe, ce qui a été enregistré, ça se passe sur un V-disque.
Et les V-disques, ce sont les disques qui, dans les années 40, avaient été exprès enregistrés et pressés pour l'armée américaine.
Le signe V étant celui, naturellement, de la victoire.
Voilà, c'était les Victory Records, en fait.
Voilà.
Et ils étaient exempts de droits, c'est-à-dire que leur commercialisation était en enclave dans le marché normal, avec le consentement des compagnies de disques et des contrats d'exclusivité qui pouvaient aller ici ou là. Et naturellement, il y a eu un copieux trafic de V-disques, et pour y mettre fin, l'armée américaine a fini par faire détruire toutes les matrices.
C'est vraiment dommage, parce que c'était quand même des disques exceptionnels, souvent enregistrés en direct. C'est un peu le témoignage d'un moment.
Cette destruction de témoignages importants et qui sont assez uniques parce que l'atmosphère de ces enregistrements était plus détendue puisque c'était pas commercial, et ben c'est une sorte de vandalisme tout à fait lamentable. Heureusement, il y a eu les trafics, les collectionneurs, enfin bref, on a quand même conservé les galettes. Voilà. Et c'est grâce à un de ces collectionneurs que nous pouvons ce soir vous faire entendre Billie Holiday dans
Don't Explain, ce qui veut dire oh là là, n'expliquez rien.
Un de ses plus grands succès.
It's Billie Holiday, my co-star in the picture, New Orleans.
Thank you very much, ladies and gentlemen. And I'd like to sing a song that I wrote. It's titled Don't Explain. Hush now, don't explain. I know you raised Cain. I'm glad you're back. Don't explain. Quiet, don't explain. You mixed with some dame. Skip that lipstick. Don't explain. You should know I love you. And what love endures, all my thoughts are of you, for I'm so completely yours. surprised to hear folks chatter, and I know you cheat, but right and wrong don't matter when you're with me, sweet. Hush now, don't explain. You're my joy and pain, my life's yours, love. Don't explain.
Nous sortons d'un show Louis Armstrong, et bien voici maintenant un pianiste qui fut le pianiste de Louis Armstrong dans ses jeunes années. Il s'agit de...
Buck Washington. Lui, c'est quelqu'un de Louisville.
Dans le Kentucky. Parfaitement dans le Kentucky.
Absolument dans le Kentucky. Et là, depuis l'enfance, il connaissait un certain Bubbles.
De son vrai nom, John Sublette.
Oui, parce que vous pensez bien qu'il ne s'appelait pas Bubbles Nature.
Non, non, non.
Et ce Bubbles était un danseur remarquable. Et depuis l'enfance, eh bien, ces deux-là, ils ont commencé leur carrière, Buck comme pianiste et Bubbles comme danseur, en s'appelant tout simplement...
Buck and Bubbles.
Voilà.
Et c'est un numéro assez extraordinaire qui a eu beaucoup de succès pendant pas mal de temps. D'ailleurs, on les voit au cinéma. Si vous voyez un jour passer Cabin in the Sky à la télévision, ça arrive quelquefois, ne manquez pas, vous y verrez Buck and Bubbles en action. Mais Buck Washington a également enregistré au piano... Très peu, mais enfin, il en reste une trace, justement.
Celle-là qu'on va vous passer en propre.
Vous passer parce que nous avons beaucoup cherché à retrouver des traces dans toute cette affaire. En quelque sorte, c'est une émission de traces aujourd'hui. Voilà. Et ce morceau, c'est...
Old Fashioned Love.
Ça veut dire amour à l'ancienne, amour démodé, tout ce qu'on voudra. En tout cas, c'est un très joli morceau de l'illustre James P. Johnson. Thank you.
La suivante, c'est Dinah Washington. Alors, vous me direz, mais attendez, le précédent s'appelait Buck Washington. Ils étaient mariés. Ah, bah, du tout.
Non, c'est pas sa cousine non plus, d'ailleurs.
C'est, voilà. En réalité, il y a beaucoup, beaucoup de Noirs qui s'appelaient Washington.
Parce que du temps de l'esclavage, le maître donnait lui-même les noms de famille à ses gens.
Oui, ça s'expliquait assez bien. Ils arrivaient d'Afrique. Il n'était pas question pour le maître de leur donner leur nom d'origine, qui était un nom africain. Donc, le maître donnait lui-même des noms.
Et donc, le nom, c'était soit celui du maître lui-même.
C'est ce qui arrivait assez souvent, oui.
Ce qui arrivait assez souvent. C'est bien pour ça que notre Louis, je dirais pas national, mais international, s'appelait Armstrong.
Oui.
Au départ. Mais quelquefois, il donnait le nom d'un personnage historique quelconque. Et donc, parmi ceux-là, il y a Washington.
Et il y en a eu beaucoup, c'est pour ça.
Pour ça qu'on rencontre pas mal de Washington dans la population noire des États-Unis et musical également en particulier. Et voici donc cette Washington-là qui s'appelle Dinah.
Alors c'est une formidable chanteuse.
Ah, Dinah Washington, alors formidable chanteuse et personnage haut en couleur, ayant tué 6 maris sous elle.
Quelle horreur.
6 quand même, une demi-douzaine. Hein. Oui.
C'est une sacrée louloute. Hein.
Et il y a quelques photos d'elle au studio en train de dicter ses ordres qui sont très éloquentes sur son tempérament. Je dois dire, là, ça filait doux. Hein. Vraiment.
N'empêche que c'est une très belle chanteuse.
Et qui a eu une grosse influence. Dinah Washington a disparu depuis longtemps. Mais parmi les chanteuses actuelles, on parle encore de l'influence de Dinah Washington. C'est une figure qui est restée. Et son style personnel découlait certainement de Bessie Smith, mais complètement à sa façon. On distingue cette origine parce qu'elle a beaucoup de talent pour le blues, mais sa personnalité a quand même été tout à fait marquante et elle a un style assez original en fin de compte. Le morceau s'appelle
It Isn't Fair.
Ah, ben ça, c'est pas bien.
Ah, mais bon, bah, oh, que c'est vilain.
Pas, c'est pas sympa du tout. Ah, oui. Enfin, on lui laisse la responsabilité de ses actes.
This way, it isn't fair for you to want me if it's just for a day. It isn't fair for you to thrill me. Things you do, it isn't fair for you to fill me with those dreams that won't come true. Why is it you came into my just a taste of high life. If this is love, then I repeat, it isn't fair for you to taunt me. How can you make me care this way? If it's just for a day. It isn't fair. if it's just a
très années 50 comme atmosphère.
Ah oui, oui, on se dirait, vous savez, dans ces vieux films de Marilyn Monroe, là, avec les trompettes, et les arrangements un peu hollywoodiens, là.
Ah oui, oui, ça c'est tout à fait fou. Ça. Bon, nous vous ferons entendre Dinah Washington en petite formation une autre fois, mais de toute façon, l'arrangement avait été écrit pour la mettre en valeur, c'est le cas.
Oui, ça c'est
même
sûr.
Même s'il est un peu daté, mais elle chante magnifiquement. Et voici maintenant un autre chanteur. Décidément, nous sommes vocalistes, puisque c'est la cinquième fois qu'on entend chanter, mais on ne va pas regretter. Il s'agit d'un drôle de type.
Oui, Eddie Vinson.
Surnommé Clean Head, parce qu'il n'avait pas un poil sur le caillou. Nous pouvons en témoigner, parce que nous avons rencontré Eddie Vinson la première fois au Salon de la Musique. Parce qu'il y avait un Salon de la Musique, figurez-vous. Avant le musée d'Orsay, ça se passait Gare d'Orsay. Et là, il y avait, dans un coin, un pianiste que nous avons identifié comme étant G. McShan. C'est extraordinaire de débarquer G. McShan à Paris sans être annoncé dans aucun journal. Il était là pour jouer du piano au Salon de la Musique et il avait dans ses bagages ce formidable saxo et chanteur qu'était Eddie Vinson.
Cet Eddie Vinson, il a une particularité. C'est un disciple de Charlie Parker. Alors, vous savez, Charlie Parker, les disciples, ils sont quelquefois partis très 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 loin du jazz. Ils ont fait une autre musique.
Bah oui, parce que Charlie Parker ayant créé une musique qui s'appelait le bebop, la plupart de ses disciples sont dans cette branche bebop pour laquelle nous avons à n'avoir aucune compétence particulière.
Ouais, mais par contre, curieusement, c'est Eddie Vinson, lui, qui était donc disciple de Parker. Il a pris les côtés jazz de Parker, finalement.
Et oui, Parker venait naturellement, lui, du jazz avant d'inventer autre chose. Eh bien, Eddie Vinson a relayé ça, comme d'ailleurs Eddie Berfield, que nous avons aussi connu en son temps. Et cet Eddie Vinson, il a toujours plus ou moins les pieds dans le blues et il va nous le prouver. Voici.
When a woman loves juice. Cette femme-là, elle aime un peu trop la boisson. Hein.
Eddie Vinson, chanteur, saxophoniste, magnifique.
Drinking some juice, you moved over to where I sat, and we were introduced. I was drinking single shots of whiskey, and you dropped a fin. You said, give her a double, then rack 'em back again. So go out quietly, Daddy, and please don't slam the door.
Beaucoup de gens disent que le jazz est une musique improvisée, que c'est sa caractéristique principale. Bon, nous dirons-nous que c'est une de ses composantes très importantes, parce que quand même, le jazz, c'est d'abord une pulsation et un langage. Mais il a été illustré par de très grands improvisateurs, certainement les plus grands improvisateurs de notre temps.
Et par exemple, celui que nous allons vous passer, très emblématique, qui s'appelle Errol Garner. Alors lui, il ne savait pas une note de musique. Alors vous me direz, mais comment on peut improviser? Improviser, ça veut dire créer des notes qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas écrites. Comment on va s'y retrouver? Parce que s'il y a 1, 2, 3, 4 musiciens qui jouent, normalement, vous vous dites, bah, alors c'est le désordre. Eh bien non, ce n'est pas du tout le désordre. Parce qu'en réalité, une improvisation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, en musique jazz ou en musique traditionnelle ou autre, on prend ce qu'on appelle la grille harmonique. C'est-à-dire qu'on va jouer que des notes qui vont ensemble. On n'a pas le droit de jouer des notes qui ne vont pas ensemble. Pourquoi ? Parce que ça fait moche.
Ah ben c'est sûr.
Donc, qu'on sache la musique écrite ou qu'on les connaisse d'oreille, c'est pareil. Donc, on va jouer que les notes qui vont ensemble et vous pouvez avoir quatre musiciens qui jouent pas la même note, mais c'est quatre notes qui vont ensemble.
Tu sais que les savants appellent ça de la polyphonie spontanée.
Spontanée, n'est-ce pas? Et simplement, évidemment, c'est donc pas du tout du désordre. C'est quelque chose que chacun crée de son côté, mais en respectant les notes possible.
Alors là, ils sont en fait 90. Il y a un batteur, un bassiste, Errol Garner au piano et les 88 touches du piano. Ça fait d'ailleurs 91, autant pour moi. Et ce que Errol Garner est capable de faire avec 88 touches, c'est assez médusant. Et alors, il faut insister sur le fait que le grand improvisateur, c'est en fait simultanément un compositeur. Son discours est cohérent. C'est un compositeur dans l'instant.
C'est quelqu'un... Un improvisateur, il crée une musique qui va avec celle des autres.
Un petit mot sur le batteur, parce que nous l'avons entendu il y a quelque temps dans une autre émission, de rareté justement. Il s'agit de Spex Powell. Et alors Spex Powell et son complice bassiste Al Hall, c'était des gens qui étaient taillés sur mesure pour accompagner Errol Garner. Voici un morceau qui s'appelle
« Moon Glow ». Thank you. Les deux morceaux suivants que nous allons vous passer, ils sont joués par un certain Lucky Thompson.
Lucky Thompson, de son vrai prénom, Ellie.
Alors, c'est un des plus grands saxo-ténors. Il a mené quand même une vie de musicien très remplie.
Très remplie. D'abord, il a commencé par des études musicales d'une très grande solidité, dit-on. Puis après, c'est devenu une star du saxo-ténor, très rapidement. Il a joué avec une infinité de gens, mais il ne s'est jamais vraiment fixé durablement quelque part.
Oui, c'était quelqu'un de très indépendant.
Il a beaucoup bourlingué, y compris en Europe. Il a même fait de l'enseignement, alors là, non pas en Europe, mais en Amérique, dans des universités huppées.
Et la fin, non pas de sa vie, mais de ce que nous en connaissons, est assez éloquente, puisque tout d'un coup, on perd sa trace.
Certains l'auraient vu en Espagne.
Et quand on dit on perd sa trace, il a véritablement disparu. Personne ne sait rien sur lui. Où est-il ? Est-il mort ? Est-il vivant ? Enfin, était-il mort et vivant ? On ne sait pas.
Dans la population noire, bien souvent, et surtout dans le milieu du blues, on ne sait pas très bien la date de naissance des gens. Là, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu.
Ouais.
Là, vu l'âge qu'il aurait maintenant, il est probable qu'il n'ait plus de ce monde, mais on ne sait pas quel jour, quel endroit, ni rien. On ne sait plus rien. Voilà. Il s'est littéralement volatilisé et vu le talent musical qu'il avait, nous dirons qu'il s'est sublimé, finalement. Il avait deux maîtres, ce Lucky Thompson, deux influences très perceptibles, Coleman Hawkins, à qui il a certainement dédié le second des morceaux qu'on va passer maintenant.
Puisque ça s'appelle Body and Soul.
Il y a beaucoup de saxo-ténors qui ont rendu hommage à Hawkins en jouant ce morceau. Et puis également Don Byas, et ce côté Don Byas est également perceptible dans ces morceaux, dont le premier, avant Body and Soul, s'appelle...
A Lady's Vanity.
Tout un programme, mesdames, ouvrez l'oreille.
Thank you. Thank you.
Maintenant, parlons de Juice Wilson. J'ai effectivement envie d'en parler parce que figurez-vous que c'est un violoniste.
Et
moi, évidemment, les violonistes, ils ont un petit côté de mon cœur. Mais en plus d'être violoniste, qui est relativement rare dans le jazz, hein, quand même, il y en a. Mais évidemment, beaucoup moins que des trompettistes.
Il n'y en a pas beaucoup, c'est vrai.
C'était un type qui avait une vie de globe-trotteur incroyable.
Ah oui, à partir de la fin des années 20, où il s'était joint à un orchestre partant en tournée en Europe, qui était l'orchestre de Sam Wooding, il a passé sa vie en Europe, en Afrique du Nord, à Malte.
On l'a vu partout.
Et c'était une sorte de légende, parce que, en fait, ce Juice Wilson, de son prénom Robert, il n'avait pratiquement pas enregistré. On connaissait son nom au travers de quelques disques de Sam Wooding, enregistrés un peu par hasard pendant cette fameuse tournée.
Oui, parce que les enregistrements, ils s'en fichaient complètement.
Oui, complètement. Alors, c'est donc une grande rareté que vous allez pouvoir entendre. Mais auparavant, en terminant le périple, pendant toute la guerre, il est resté au Caire pour jouer pour les officiers anglais, tranquille.
Ben oui.
Un peu loin de l'Alamein. Quand la guerre a été finie, il s'est remis à voyager, Afrique du Nord, Italie, etc. Et finalement, il a atterri à Tanger. Et c'est là qu'un beau matin, il s'est embarqué pour Paris. Avant de rentrer en Amérique, il voulait voir s'il pouvait jouer un peu à Paris, ce qui a d'ailleurs été le cas. Nous l'avons vu débarquer à une réunion du Hot Club.
Oui, nous-mêmes, on a été très surpris parce que ce monsieur de 60 ans, qui était un peu insaisissable vu qu'on ne savait jamais trop où il était.
On voit arriver ce petit bonhomme qui nous dit « Bonsoir, je suis Juice Wilson ». Alors, Juice Wilson, c'était une légende vivante, mais nous étions très jeunes et nous ne voyions pratiquement pas qui c'était, sauf un érudit qui a dit « Juice Wilson, je sais ». Donc on l'a accueilli, on l'a fait un peu parler, et même on lui a donné quelques contacts pour jouer à droite à gauche, puis finalement, il est retourné aux États-Unis. Mais on avait quand même vu ce soir-là arriver un type qui avait joué avec Freddie Keppard en 1918. Ça faisait quand même drôle, hein, parce que c'est,
oui,
un précoce, hein, c'est un précoce.
Oui, il faut savoir qu'il a commencé à 12 ans. Non pas le violon à 8 ans, mais la vie de professionnel à 12 ans.
C'est assez étonnant, des gens comme ça. Oui, quand il était chez Freddie Keppard, il avait 14 ans quand même. Hein.
Bon. Il savait jouer du violon, hein, si vous voulez mon avis.
Ah oui, il savait. D'ailleurs, vous allez pouvoir vous en rendre compte, on n'entend pas beaucoup de violon forcément dans le disque qui vient, mais c'est l'écho sonore que nous ayons de ce fameux Juice Wilson. Et il dénote quand même un style très original, un style un peu à la Stuff Smith, en opposition avec ce que nous avons connu chez d'autres, comme Grappelli ou Edison. House, qui étaient des gens venant plus du classique.
Voici donc Kansas City Kitty.
Un tube des années 20.
I love Frisco Kate, swinging on that golden gate. When Kansas City Kitty smiled at me, she smiled at me. I left Ma and Pa in Omaha. When Kansas City Kitty smiled at Kansas City Kitty, she come from Missouri and she showed me. Like a Texas deer, she buffaloed me. Every Jim and Jack has got the well-known hack and sack. When Kansas City Kitty smiled at me. I
morceau suivant est une rareté. C'est avec Sister Rosetta Tharpe. Alors on me dirait quand même, là vous exagérez, vous nous parlez de cette femme très très souvent.
Oh, on en a parlé 100 fois dans cette émission.
Alors, en quoi elle est une rareté? C'est pas elle qui est une rareté, c'est le disque.
Et oui, dans nos listes, nous étions à la recherche de ce morceau depuis très longtemps, car c'est le seul morceau de Sister Rosetta Tharpe qui n'avait jamais été réédité. En tout cas, à notre connaissance, nous avons mis la main dessus et nous étions très contents car c'est un très bon disque. Et ça s'appelle...
The Last Mile of the Way.
Oui, c'est pas très réjouissant finalement, ça rejoint un petit peu à la fameuse devinette. Elle blesse toute, la dernière tue, c'est quoi ?
Eh oui, ce sont les heures.
If I walk in the pathway of duty, if I work until the close of the day, oh yes, I shall see the great king and his beauty. The last mile of the way. When I've gone the last mile of the way, oh yes, I shall rest at the close of the day.
Comme d'habitude, c'est un très beau gospel, mais il a une particularité, c'est que c'est une valse. Vous avez remarqué ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien voilà, c'est une valse.
Et d'ailleurs, dans le gospel, le répertoire est, dans une très grande proportion, composé de morceaux à trois temps, comme celui-là, des sortes de valses lentes. Pas accentuées de la même façon qu'une valse, mais vraiment, ça se rencontre souvent dans les églises. J'ai des souvenirs là-dessus tout à fait précis. L'autre soir, nous avons passé un enregistrement d'un chanteur de blues et harmoniciste nommé...
Sonny Boy Williamson II.
Le second, Sonny Boy. qui avait été, si vous vous rappelez, gravé lors d'une soirée où nous étions et où le magnétophone faisait un petit bruit très agaçant.
Ah oui, une sorte de petit bruit de souris qui revenait dans l'enregistrement, un peu pénible.
Alors évidemment, après la mort tragique d'ailleurs, parce que quand même, il s'est fait perforer le cerveau avec un crochet à glace par son assassin. Après la mort de Sonny Boy Williamson, le premier, venir se baptiser Sonny Boy Williamson, le second, alors qu'on s'appelle en réalité Rice Miller, c'est un exploit.
C'est un peu osé quand même, hein.
Ouais.
Certains ont certainement pensé que c'était gonflé.
Ben c'était gonflé, mais il y avait des disques qui allaient avec, et ces disques étaient d'une telle qualité qu'ils ont été acceptés par le public et par les fans du premier Sonny Boy. Et voici justement un des disques qui a fait connaître Sonny Boy Williamson le second, à l'époque où il a émergé. Ça s'appelle...
Empty Bedroom. Oh, c'est triste ça, hein. La chambre à coucher vide, dites donc.
Turn out all the lights. I wonder what my good woman is doing tonight. Empty bedroom. People I just can't stand. If I could find my baby, she might be able to explain. I look for the sleet and snow, and I look for the rain. Empty bedroom, people I just can't stand. If I only could find my baby, I believe she'd be able to explain. Empty bedroom, people I just can't stand. But if I could find my baby, she might be able to explain.
Vous savez tout ce qu'il y a eu, la crise en Amérique, la crise de 1929, qui a mis une infinité de gens sur le pavé, n'ayant pas de travail. L'Amérique qui était source de tous les bonheurs, où on trouvait du boulot comme on voulait, et ben là, tout d'un coup, ça s'est complètement effondré.
Oui, et puis les Noirs ont été les premiers
survivants. Eh bien oui, puisque c'était sûr. Ceux qui étaient souvent les moins qualifiés, qui n'avaient pas de diplôme, etc. Là, ça a été une très sombre période. Et à cette période-là, par contre, a émergé quelque chose qui voulait... donner un tout petit peu de tonus à ces gens qui étaient tristes. C'était des orchestres. Je dirais pas de briques et de broc.
Ah non, c'était pour surmonter le moral. Hein.
Voilà, des orchestres un peu simples, toniques.
Ah oui, grosse énergie.
Voilà. On aurait pu les comparer à ces tout premiers orchestres-là des débuts du jazz qu'on appelait les tramp bands. C'était des orchestres où les gens s'étaient fait des instruments complètement de fortune. Vous savez, un banjo fait avec une grosse boîte de cigares ou...
La planche à laver, la fameuse...
La fameuse planche à laver, ou alors des gens qui s'étaient fait des sortes de trompettes avec des tuyaux. C'était incroyable.
Oui, ces petits orchestres itinérants de l'époque, eh bien, on retrouve un petit peu le même état d'esprit. Et tout ça, ça va dans le sens de remettre le moral des gens à l'endroit ou dans le bon sens, comme on voudra. Et là, nous avons un orchestre, justement, qui s'appelle les Washboard, puisqu'on parlait du Washboard. Les Washboard Rhythm Kings.
On n'hésite pas devant Kings. On est toujours les rois de quelque chose.
Ah, hein. Ça, c'est évident. C'est évident. Et là, il y a un musicien un peu connu. Donc, ce disque est une rareté, d'ailleurs. Il a fallu le pêcher dans les coins, celui-là aussi.
Et encore un Washington. Hein.
Et encore un Washington. qui, celui,
vous voyez ce qu'on vous disait. Hein.
Encore un Washington. Celui-là, c'est le troisième pour aujourd'hui.
Il s'appelle Steve.
Il joue du banjo, il chante. Et en fait, il joue aussi du violon. Alors, tu vois. Hein.
Ah oui.
Comme quoi, le violon mène à tout. À condition de jouer du banjo.
Attention à ce que tu vas dire.
Le morceau s'appelle Blue Drag et l'excellent trompettiste est Dave Page.
Got me in such a peculiar daze. Can't get enough of blue drag. Oh, it got my soul on fire. I know that I'll never tire of that low-down blue drag.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.